Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises.
Bonsoir, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour une nouvelle soirée mensuelle thématique qui nous conduira ce soir à écouter une parole extrêmement autorisée sur l'histoire africaine en la personne de M. Pierre Kipré qui est au micro, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir à l'antenne pour nous parler de son dernier livre et puis aussi de vous parler de la situation au pays. Pierre Kipré est ivoirien, il a eu l'avantage d'être l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris pendant un certain temps, un temps même très particulier sur lequel il nous dira peut-être quelques mots, du moins je l'espère, que ça fait partie de l'histoire de la République française, pas dans ses plus beaux côtés. Et son dernier livre s'intitule « Le concept de souveraineté en Afrique ». Alors, pourquoi ce titre ? Alors, je vais le laisser répondre, mais enfin, ça veut dire que Pierre Kipré est un historien de formation et il aurait pu faire la brillante carrière universitaire qu'il a fait, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a d'abord été connu par l'UNESCO comme un des principaux chercheurs sur l'histoire africaine. Il a produit divers ouvrages, contribué à des tas d'ouvrages collectifs, etc. Il a lui-même écrit beaucoup de livres, je ne vais pas tous les citer, mais regardez sa biographie sur Internet, il y en a plusieurs, il y en a une sur Abidjanet, il y en a une sur Wikipédia, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, donc il a une vraie carrière d'universitaire qui, à un moment donné, s'est mêlée directement de l'avenir et du présent de son pays en participant donc à la fois à des tâches administratives dans l'éducation nationale, en allant jusqu'au poste de ministre de l'éducation nationale et en étant le dernier poste qu'il a occupé. Alors pourquoi il est le dernier ? Il y en aura peut-être d'autres. C'est le dernier dans l'histoire telle qu'elle se déroule jusqu'à aujourd'hui. Le dernier poste qu'il a occupé officiellement était le poste d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris jusqu'à une certaine date et une certaine période sur laquelle on dira peut-être quelques mots. Je ne sais pas si je lui laisse préciser un petit peu son curriculum vitae avant que nous faisions cette petite plongée dans l'actualité récente de la France, mais je lui laisse la parole.
Merci beaucoup, merci Bernard, merci à toute votre équipe, merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir.
Et je dois dire qu'en même temps que je découvre votre belle ville de Marseille, je découvre aussi cet espace très ouvert aux échanges culturels. Et vraiment, je vous en remercie. Sur mon parcours, sur mes histoires personnelles, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je dois dire que vous avez très bien situé les choses et ça me va comme cela.
Très bien. Oui, vous savez, vous êtes accueilli dans ce qu'on appelait à l'époque de la création, au moment du premier septennat de Mitterrand, les radios libres. Elle a gardé ce côté qu'elle l'est encore. Beaucoup sont devenus des radios commerciales. Radio Galère est encore une radio libre où on a la liberté de s'exprimer, comme on va le faire ce soir en votre compagnie. Merci et avec beaucoup. L'équipe donc habituelle de la soirée. Donc Marie-Ange qui est là, que je salue, Roselyne qui est là, et Habib aussi. Et je remercie Sidi, donc, qui est en cabine et qui va assurer la technique, comme il fait ça depuis des quantités de mercredis, parce que ça doit faire plus de 10 ans maintenant que nous faisons ces soirées thématiques. Alors j'allais dire qu'on allait revenir un petit peu sur l'actualité française parce que à travers tout votre travail, qui est un travail extrêmement dense sur lequel on va s'arrêter, on a cette espèce, j'allais dire, la France est rentrée un peu en Côte d'Ivoire par effraction, quelque part à la fin du 19e siècle. Enfin, personne en Côte d'Ivoire ne s'attendait à ce qu'elle arrive, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait même des peuples africains qui s'attendaient à être colonisés ? Je ne pense pas.
Pas du tout.
Pas du tout. Bon, et donc chacun est rentré où il a pu, les Portugais ici, les Anglais là, les Français ailleurs et tout. Bon. Et cette collusion a produit toute une série de mélanges sur lesquels on va beaucoup échanger ce soir. Et puis, elle a produit aussi des scénarios et des scènes extrêmement désagréables, très pénibles. Et la dernière qui est revenue dans l'actualité, ça a été... Alors, après qu'on ait fixé la date avec vous de faire cette émission, il y a eu un décès dont on a beaucoup parlé sur tous les médias français, qui est le décès d'un ancien président de la République française, Jacques Chirac. Vous avez tous entendu parler de ça. Ce qui n'a pas été beaucoup dit, même je crois pas du tout, sur ce qu'on appelle les radios grand public et les télévisions de grand public, c'est que le rapport de Jacques Chirac à l'Afrique était un rapport bien bien particulier, qui n'a pas été beaucoup soulevé, autant que je sache, pendant la période qui a suivi, les quelques jours qui ont suivi sa disparition. Et donc j'ai pensé utile, pour bien montrer que cette pénétration par effraction de la France dans ce qui était... Je ne sais pas si ça s'appelait d'ailleurs la Côte d'Ivoire ou non, je ne sais pas quel nom ça portait. Est-ce que c'était un territoire délimité ou pas,
non,
ça fait partie.
Les populations étaient regroupées en royaumes, voilà, chefferies, villages, sociétés lignagères. La Côte d'Ivoire, le terme Côte d'Ivoire ne concernait pour les navigateurs européens qu'une partie du littoral de la Côte d'Ivoire actuelle. Et c'est seulement à l'extrême fin du 19e siècle, lorsque, sans connaître l'intérieur du pays,
bien sûr,
parce que dans le prolongement de la conférence de Berlin de 1884-1885, la France, en 1893, décide que les quelques établissements épars qu'elle avait sur la côte devaient être érigés en colonie de Côte d'Ivoire. D'abord, établissement français de la Côte de l'Or, puis... colonie de Côte d'Ivoire. Bon, ben, les populations de l'intérieur, à plus de 20 kilomètres, n'avaient jamais vu un seul blanc.
Voilà, donc il y aurait tout de cette tout, appellation de des blancs, etc.
Et, il aura
et réciproquement,
fallu,
j'allais dire.
Et il aura fallu batailler, il aura fallu à la France conquérir ces terres quasiment de 1893 jusqu'en 1920. Et pour certaines parties de la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1946.
Voilà. Puisqu'on avait eu l'occasion, dans une émission qu'on avait consacrée à l'histoire de votre pays, de parler de Samori Touré ou de gens comme ça, des rébellions.
Oui, la guerre contre Samori Touré, c'était
des rébellions très dures.
Voilà. De 1880, pour le cas de la Côte d'Ivoire, de 1893 à 1898.
Voilà. Oui,
dans le nord, dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Puisque pour le, vous l'avez dit,
mais
pour...
ailleurs, voilà, dans la zone forestière, malheureusement, on ne diffuse pas suffisamment nos ouvrages, mais la France a essuyé pas mal de défaites. On n'en a jamais parlé, mais enfin, il y en a eu. Mais finalement, elle a eu raison de ses populations, surtout à partir de 1908, lorsque le gouverneur Engoulevent a engagé la conquête systématique avec des canons, des soldats, etc. Et de 1908 à 1920, ça a été très dur.
Très dur.
Avec des crimes contre l'humanité à cette époque. J'ai écrit un livre en son temps, La Côte d'Ivoire coloniale, où j'ai mis des photos de chefs militaires africains dont la tête se trouve au bout d'une pique.
Ouais.
Bon, c'était horrible. Ouais. Mais enfin, c'était la guerre. Et la France s'est imposée comme la colonisatrice de ce pays.
Je me souviens, je ne sais pas si c'était toi qui avais donné lecture, Marie-Ange, qu'on avait lu un passage de ce monsieur Engoulevent, plutôt de Gallieni.
Ah, ça c'est.
À
oui,
qui
Gallieni.
Il écrivait « Il faut passer à la manière forte ».
Tout à fait. Ah, c'était justement, Engoulevent était un disciple de Gallieni.
Voilà. Et donc, il avait eu l'accord du gouvernement à Paris pour dire passer à la manière forte, il se rebelle, il rejeune, maintenant il faut en finir.
Mais c'est la conquête.
Voilà, c'est la conquête.
Comme dans toutes les conquêtes militaires, ça laisse quelques petites traces.
Ça laisse quelques petites traces. Voilà. Et donc, ça c'est aussi intéressant de vous entendre là-dessus, parce qu'effectivement, dans l'histoire de la colonisation, ce sont des chapitres qui sont oubliés.
Pas
par vous, voilà. Mais dans tel qu'on nous l'apprend ici, on nous dit Jules Ferry, la mission civilisatrice et tout, et puis on oublie les passages où il faut passer par la manière forte.
On cite souvent d'ailleurs Jules Ferry comme le chantre de la mission civilisatrice, mais on ne cite jamais Victor Hugo.
C'est exact.
qui a été justement l'un des plus grands chantres. D'ailleurs, dans mon livre,
vous le mentionnez.
Je mentionne un petit peu ce beau poète.
Voilà. Et donc, dans les siècles, il n'y a pas que des légendes, il y a aussi des horreurs.
Il y a des horreurs, bien sûr.
Voilà. Je ne sais pas où est passé Sidi, parce que je voulais qu'il nous passe cet extrait concernant le président sortant. Sidi, tu m'entends? Est-ce qu'on peut passer donc Théophile Kouamo? Voilà, ça a été enregistré donc sur un média, ou sur Le Média, qui est un média donc indépendant, non gouvernemental, à la suite du décès de Jacques Chirac. Théophile Kouamo, donc, qui est journaliste installé à Paris, qui, je crois, est d'origine ivoirienne, mais qui est français.
Non, il est plutôt camerounais.
Camerounais, bon, je ne savais pas. Alors,
il est d'origine camerounaise.
Qu'on va écouter. Et vous allez voir que c'est des discours qu'on n'a pas entendus sur d'autres chaînes de télévision. Et qui touche directement notre sujet.
George W. Bush, des commentateurs américains, éludent complètement les crimes entourant la plus grosse opération militaire extérieure qu'il ait menée, c'est-à-dire la guerre en Irak. C'est un peu dans cette situation surréaliste qu'on se retrouve en France, suite au décès de Jacques Chirac. Et cette amnésie organisée en dit beaucoup sur notre pays, la France, mais aussi sur son rapport à ses élites et à son habitus colonial. En tout cas, c'est ce que je pense et je vais vous expliquer pourquoi. Alors que l'ancien président français meurt, je pense à Jean-Louis Koulibaly Kouassi. C'est un nobody, né le 10 septembre 1979. Fils unique de sa mère, Suzanne. Il est mort le 9 novembre 2004, à 25 ans donc, décapité à Abidjan par l'armée française, qui a tiré sur lui à bout portant, selon des spécialistes sud-africains de médecine légale. Une armée française, donc, sous les ordres de Jacques Chirac, qui a ouvert le feu sur une foule de civils désarmés et tués, en dehors de Jean-Louis Koulibaly Kouassi, plusieurs autres jeunes personnes, dont la plus jeune avait 12 ans. Vous n'avez jamais entendu parler? C'est normal. En dehors d'un documentaire partiellement censuré sur Canal+, aucun média mainstream français n'en a jamais vraiment parlé. Aucun média français n'est jamais allé à la rencontre de Suzanne pour l'entendre parler de son fils.
Je veux que le monde entier même sache que les Blancs ont tué mon enfant. Il faudrait que les Blancs eux-mêmes, Chirac lui-même là, ils sachent que vraiment il a tué une femme qui a un seul enfant.
Même Reporters sans frontières a consacré un seul communiqué pour solde de tout compte à la mort d'Antoine Massé, correspondant de presse tué d'une balle dans la tête et d'une balle dans le cœur par l'armée française alors qu'il couvrait des émeutes qui lui étaient hostiles dans la ville ivoirienne de Diokoué. Alors que Jacques Chirac meurt, aucun média ne revient sur ce qui n'est pas une bavure, mais un massacre. Un massacre à caractère néocolonial, dont ni les auteurs, ni les commanditaires n'ont jamais été ni mis en examen, ni jugés. Lemonde.fr, dans son édition Afrique, évoque les circonstances de ce crime tout en l'éludant.
La Côte d'Ivoire fut d'ailleurs la grande affaire africaine de ces 12 années à l'Élysée. Peu après la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, le président Laurent Gbagbo ne tarda pas à accuser Paris d'avoir manœuvré dans l'ombre pour le renverser. La tension atteignit son paroxysme en novembre 2004, après le bombardement de la base militaire française de Boaké par l'aviation ivoirienne. À cet instant, Paris envisagea sérieusement de chasser M. Gbagbo de son fauteuil et de le remplacer par son chef d'état-major.
Oui, tout à fait. Le Monde vous explique, l'air de rien, que Jacques Chirac a essayé de remplacer un chef d'État élu par un officier félon dans un pays officiellement indépendant. Et c'est parce que des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour contrarier ce projet que des dizaines d'entre eux sont morts, fusillés par notre armée, sous les ordres de ce président, qui était si chaleureux, si jovial, si accessible, si friand de têtes de veau et de blagues salaces. Jacques Chirac est mort, et les familles des victimes de ses choix politiques criminels n'ont jamais eu, devant un prétoire, la moindre explication provenant de lui, de ses ministres ou de ses généraux. Je pense à Suzanne, Suzanne Yahaou, mais je pense aussi à Josette Chiloua, la maman d'un des 9 soldats tués le 6 novembre 2004 dans le bombardement de la base militaire française de Boaké, qui a été le déclencheur de la tentative de coup d'État évoquée par Le Monde Afrique. Un bombardement perpétré par des mercenaires biélorusses travaillant officiellement pour le gouvernement ivoirien, mais que le gouvernement de Jacques Chirac a aidé à plusieurs reprises à filer. Jacques Chirac est mort, vieux, malade et rassasié de jour auprès de ses proches. On le savait déjà qu'il avait bénéficié d'une impunité 5 étoiles en ce qui concerne toutes les affaires de corruption dans lesquelles son nom avait été cité. Mais qui en France sait que cette impunité s'élargit à de graves crimes de guerre? Même le nouveau parti anticapitaliste, faisant dans un communiqué un inventaire à la Prévert des méfaits de notre ancien président, a oublié ce sang versé là. Pendant que Jacques Chirac faisait le beau dans le monde entier en disant non à la guerre en Irak, la guerre de George W. Bush, il avait lui-même bien camouflé, par un étrange consensus français, son petit Irak, selon l'expression de la presse anglo-saxonne de l'époque. En Jacques Chirac qui meurt, bon nombre d'entre nous voient le dernier président gaulliste et voient le gaullisme en question comme un humanisme, un idéal international d'équilibre et de respect du droit international, là où il n'a jamais été qu'une posture, un anti-américanisme de positionnement ailleurs que dans ces pays-là, où il pouvait continuer à exercer un impérialisme de milieu de gamme. Jacques Chirac l'Africain, c'était donc une posture, frôlant quelquefois la schizophrénie. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a pu revoir cette vidéo où il se pose en avocat d'une Afrique exploitée.
On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris.
On repasse un petit bout.
Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique.
Ainsi parlait l'homme dont une des âmes damnées, Robert Bourgis, affirmait qu'il avait reçu, pour financer ses ambitions politiques et, on l'imagine, ses frais de bouche, des dizaines de millions de dollars venus de chefs d'État de pays parmi les plus pauvres du monde, qui achetaient ainsi une protection réelle ou supposée. Des sous souvent transportés à l'intérieur de djembé, anormalement lourds, comme pour en rajouter dans le registre des clichés sordides. Une démocratie européenne ainsi financée peut-elle être autre chose qu'une démocratie de basse intensité, corrompue jusqu'à la moelle et capable à tout moment d'importer à l'intérieur de ses frontières la violence d'une vieille colonialité jamais regardée en face? À l'heure où Jacques Chirac meurt et où un grand nombre de Français semblent déplorer le bon vieux temps, où les forces de l'ordre leur paraissaient plus civilisées qu'aujourd'hui, il est bon de rappeler la continuité qu'il y a entre les destins de Jean-Louis Coulibaly Kouassi, tué par des balles françaises en 2004, et ceux de tous ces éborgnés, mutilés et morts, de la séquence politique qui a commencé il y a bientôt un an, avec le mouvement des Gilets jaunes. Nous assistons tout simplement à une extension du domaine de l'impunité.
Voilà, c'était assez saisissant. Ça rappelle donc des événements réels. Ça rappelle aussi, et ça insiste sur le fait que ce que Coimbeau appelle la colonialité française, c'est-à-dire une partie de nos hémisphères cérébraux qui sont fabriqués de telle façon que ces événements-là ne sont pas relatés, ne sont pas repris par la grande presse et sont comme inexistants pour la majorité de nos concitoyens. Ils ne sont évidemment pas inexistants pour les concitoyens de nos amis ivoiriens, sénégalais, camerounais, etc. Mais l'intérêt de votre livre, c'est bien sûr de rappeler ces événements-là et tout ce qui les ont précédés. C'est-à-dire, il y a un tableau très saisissant dans votre livre de la quantité des interventions militaires françaises dans les colonies françaises. C'est constant, il ne se passe guère d'années depuis la Deuxième Guerre mondiale sans qu'il y ait, depuis les indépendances en particulier, sans qu'il y ait une intervention militaire. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup sur cette notion, il ne faut jamais confondre indépendance et souveraineté. Je pense qu'on y reviendra beaucoup. Et donc, ça n'a jamais empêché et ça continue. Et mais ça, tout ça est plus connu un petit peu des Français qui s'informent. Par contre, ce sur quoi vous mettez l'accent et qui est très intéressant pour la compréhension des auditeurs, c'est que votre travail consiste à dire qu'est-ce que c'est que la souveraineté en Afrique. Et ce n'est pas simplement une idée qu'on revendique par rapport aux colonisateurs, c'est une idée qui a des racines dans notre passé. C'est-à-dire, avant le 19e siècle, il y avait des modes d'exercice du pouvoir politique sur ce continent, qui sont maintenant un peu mieux connus, puisque des historiens comme vous y ont travaillé. Et c'est ça aussi le passé africain, qui est négligé. La pire négligence, le pire mépris et le pire oubli étant celui de Nicolas Sarkozy dans son discours de Dakar, disant que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. Mais elle n'est pas rentrée, mais elle n'est jamais sortie. Elle a une histoire précédant la colonisation. Et dans cette histoire, il y a à travailler, il y a beaucoup à apprendre, parce qu'il y avait des modes d'exercice africains de la souveraineté. J'aimerais que vous nous détailliez cet aspect-là qui est beaucoup moins connu des auditeurs.
Oui, je voudrais d'abord revenir sur...
Faites.
Sur ce rappel de l'action de Jacques Chirac en Afrique.
Je vous en prie.
J'ai vu, comme beaucoup de gens, qu'on l'avait surnommé Chirac l'Africain.
L'Africain.
Oui, Chirac appartient à l'histoire de la France.
Oui.
Chirac appartient à l'histoire de la France. Donc, je ne me permettrai pas d'apprécier ou de juger ce qu'il a pu faire, soit comme ministre ou maire de Paris, premier ministre, président. Je veux simplement m'arrêter sur quelques points. Jacques Chirac fait la connaissance du président Houphouët-Boigny en 1959. Il était alors un des membres des jeunesses gaullistes, avec l'association qui avait été des jeunes de l'UNR qui avaient été créés à cette époque. Et c'est le président, le général de Gaulle, qui le présente à Houphouët-Boigny lors d'une entrevue. Et Houphouët-Boigny le reçoit après, 3 jours après, et lui dit « Bravo, jeune homme, vous faites du bon travail, vous êtes apprécié par le général de Gaulle, qui est un grand homme et qui vraiment se bat pour des valeurs et pour la grandeur de la France. » Ceci, je le mettrai en rapport tout à l'heure avec la question de la souveraineté.
Bien sûr.
Et les rapports de ce jeune sorti de l'ENA, ses rapports avec le futur président de la République de Côte d'Ivoire seront très forts, à tel point que Houphouët-Boigny le considérait presque comme son héritier politique.
Ah oui.
Le président Chirac est venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire, soit officiellement,
oui,
soit plus discrètement,
ah oui,
pour prendre un peu de conseil et pour prendre quelques...
Des djembés.
Quelques essences pour sa route. Et ses rapports étaient si forts,
oui,
qu'il vous explique que cela explique pourquoi 2004 et pour d'abord pourquoi d'abord 2003
oui,
Linas Marcoussi,
oui,
pourquoi 2004 et pourquoi 2005 lorsque Chirac oblige ceux qui se réclamaient héritiers d'Ouvo-Boigny à se mettre ensemble pour combattre les socialistes qui étaient au pouvoir et conduits par Laurent Gbagbo. Après s'être débarrassé de la cohabitation avec Jospin, il fallait se débarrasser aussi
des
socialistes qu'ils avaient pu laisser en Afrique.
Bien sûr.
Et surtout, ce Gbagbo qui avait embêté le grand Ouvo-Boigny pendant autant de temps, il fallait s'en débarrasser rapidement. On ne sait par quelle alchimie il était devenu président. C'est-à-dire au cœur du pouvoir en Côte d'Ivoire, c'était inacceptable pour cet homme que l'on présentait en France, enfin en Afrique, pardon,
en Afrique,
comme l'héritier, le digne héritier politique de Ouvo-Boigny. Ceci est important à retenir et en même temps, et c'est là la grande difficulté de l'exercice du pouvoir. Contrairement à ce que l'on pense, même un chef d'État ne maîtrise pas tous les rouages
de l'appareil.
Et un de mes amis m'a dit que c'était que Chirac avait délégué à De Villepin et à Nathalie Delapalme la bonne gestion de la crise ivoirienne. Et que à la fin de sa vie, il disait, hélas, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Bon. Dont acte. Mais l'historien que je suis attend d'avoir un jour suffisamment de documents pour évaluer cette expression de Chirac l'Africain. Le premier élément, le premier indice qui me fait douter de la validité de cette expression, ce sont les mémoires de Jacques Chirac. Dans le volume 1, il consacre à Ouvo-Boigny une demi-page, à Senghor à peu près la même chose. Senghor meurt, Jacques Chirac ne se rend pas aux obsèques. C'est révélateur, peut-être. Je dis bien peut-être. Un jour, lorsque nous aurons d'autres documents, des documents plus explicites, on comprendra peut-être. L'autre élément, dans le tome 2, il s'étend beaucoup sur sa guerre contre Gbagbo. Et ça me conforte dans l'idée que tous ceux tous les quelques rares témoignages comme ceux de Tillinac ou bien du député socialiste François Loncle à propos de ces rapports me semblent fondés. Chirac, probablement, ne pouvait pas supporter qu'en Côte d'Ivoire, chasse gardée de la France, depuis que cette colonie a été totalement prise en main à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et menée, je dirais, à l'exercice officiel de sa souveraineté. La France, donc, ne pouvait pas supporter qu'un système ou qu'un régime autre que celui en bonne cour à l'Élysée s'installe. Et donc, c'est une histoire très mouvementée qui a été prolongée par quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, le président Sarkozy. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais je dirais simplement que dans les rapports avec l'Afrique, qui est un continent, et dans les rapports avec ses anciennes colonies, la France de Sarkozy n'a pas été à la hauteur de l'image que la France donne à travers le monde. C'est une image, d'abord, qui, à travers son discours de Dakar, traduit l'ignorance, l'ignorance crasse et soupine de grands responsables sur ce qu'est ce continent avec lequel l'Europe entretient des relations depuis le 15e siècle. Monsieur Sarkozy ne connaît rien, apparemment, de l'histoire de l'Afrique, des problèmes essentiels de l'Afrique, malgré ses discours. Ah si, peut-être une dimension qui est celle du business, peut-être, peut-être bien. L'autre, Jacques Chirac, au moins, avait l'avantage de connaître l'art africain, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui n'est pas rien. Dans le dialogue des cultures, il est important que l'art soit retenu comme élément essentiel. M. Sarkozy n'avait pas ce minimum. L'autre chose, c'est que son analyse des problèmes de l'Afrique ou de l'avenir de l'Afrique est une analyse qui est celle du 19e siècle et qui part d'une erreur fondamentale. Celle de l'essentialisme sur l'Afrique. On est africain par essence. Et par essence, l'Africain rigole, l'Africain est, l'Africain fait, l'Africain si, l'Africain. Ça, c'est de la philosophie de bas étage. Je profite de votre micro pour régler ce compte.
Je vous en prie.
Parce que voyez-vous, je suis arrivé en France en 1960. J'ai fait toutes mes études secondaires et supérieures ici. J'ai enseigné ici, dans différentes universités, etc. Et quand vous prenez un enfant à 15 ans, vous le modelez.
Bien sûr.
Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment modelé comme un petit Français. Si je n'avais pas été historien de l'Afrique, et particulièrement de l'historien de mon pays, je n'aurais jamais pu parler ma langue maternelle.
C'est vrai.
Je réfléchis, pendant longtemps, je réfléchissais d'abord en français et je traduisais
dans votre langue,
dans ma langue. C'est vous dire à quel point,
l'arrachement,
à quel point la France, et je ne le regrette pas, fait partie de moi. La culture française fait partie de moi. C'est une partie de moi. Exactement comme Laurent Gbagbo,
oui,
qui est mon condisciple. Nous nous sommes connus, on avait 15 ans.
Vous avez le même âge,
on a le même
âge. Il est historien aussi, oui.
On a eu même le même directeur de recherche.
Voilà.
Laurent est l'un des meilleurs latinistes de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais un peu mieux que lui en grec. Mais c'est vous dire que nous sommes des gens qui non seulement avons acquis cette culture, non seulement nous la vivons, mais nous adhérons à l'idéal contenu dans les ouvrages des philosophes, des écrivains, des historiens, des géographes, etc. Et en 2007, on entend le président de la République de ce pays sortir des âneries. Premier choc.
Bien sûr.
Deuxième choc, en 2010, lors des élections, la France, qui a été parmi les premières nations du monde à prôner la démocratie, à prôner les droits de l'homme. La France de Sarkozy, j'ai dit bien la France de Sarkozy, se commet honteusement. Je vous assure que pour quelqu'un comme moi, à cet âge, lorsqu'on voit ça, on est plus que peiné.
Oui.
On est plus que peiné. Et je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps pour me remettre de ce viol de la pensée française.
Par un Français.
Par un Français, qui plus est, le président de la République française. Ça aurait été un quidam. Bon, on entend beaucoup de choses, mais pas du président de la République française. François Mitterrand était un grand homme, mais surtout un grand tacticien, un grand politicien. Peut-être qu'il n'en pensait pas moins, mais jamais Mitterrand n'aurait dit ça. Le général de Gaulle, ou Georges Pompidou, ou le président Giscard d'Estaing, ou même François Hollande, jamais. Mais ce monsieur aura, comme on dit chez nous, versé la figure de la France par terre. Je voudrais m'arrêter sur ce point-là pour revenir à la question que vous posiez au départ.
Je vous en prie.
Il ne pouvait pas laisser passer cette occasion.
Non, mais il fallait parce que...
Dans
tout ce qui vous est arrivé à vous et à votre pays depuis 2010, il y est pour
nous
beaucoup...
Nous connaissons... La situation actuelle découle...
Absolument. De sa politique.
De la mauvaise politique
tout à fait.
De M. Sarkozy.
Tout à fait.
Et je parle d'expérience parce que j'ai été ambassadeur de Côte d'Ivoire en France de 2007 à 2010. J'ai vécu, j'ai vu un certain nombre de choses. Bon, passons sur les... Passons sur les dérapages divers. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas seule. à subir un certain nombre de choses. Et c'est cela qui le plus me dérangeait. Mais c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, si Dieu me prête vie, peut-être que j'écrirai mes mémoires, mais je ne suis pas à l'âge où on range les archives. Donc, pour revenir à ce dernier ouvrage, effectivement, ce qui s'est passé, pour faire court, de toute façon, si vos auditeurs veulent en savoir plus, ils pourront toujours acheter
bien ce sûr. Livre,
ça me fera plaisir.
Bien
mais
sûr.
Surtout, j'espère que ça permettra
de
le faire connaître. C'est seulement à partir des années 1880 que progressivement l'Europe, je dirais, conquiert l'Afrique. Mais avant cela, nos sociétés étaient organisées de manière différente. Je ne dis pas que c'était mieux ou mauvais, mais c'était différent. C'est une autre logique de l'organisation sociale et de l'organisation politique. Dans le livre, je prends quelques exemples.
Elles avaient donc une histoire.
Et à travers cette histoire, quelque chose ressort très nettement. Que qu'il s'agisse des sociétés lignagères, c'est-à-dire organisées sur la base des lignages dominants, que ce soit au niveau des royaumes ou que ce soit au niveau des empires, quelque chose ressort systématiquement, c'est la défense absolue de la souveraineté, du droit et du pouvoir de la communauté à décider pour elle-même, quoi qu'il en coûte. Et l'éducation des enfants se fait dans cet esprit, quelle que soit la société. La différence avec l'Europe de ce temps, c'est qu'il n'y a pas d'institution affectée spécifiquement à la défense d'eux. C'est la collectivité, c'est la communauté qui se met en mouvement pour défendre sa souveraineté. Par contre, à partir de la conquête européenne, progressivement, se sont développées des idées nouvelles avec les premiers auxiliaires ou les premiers alphabétisés dans les langues européennes. Ce sont ceux-là qui ont les premiers commerces avec la littérature européenne et qui, pour beaucoup, lisent Leibniz, Hobbes, Jean Bodin, qui est celui qui a créé la notion de souveraineté, etc., qui lisent Voltaire, qui lisent Rousseau, qui lisent Victor Hugo. Moi, je me souviens, mon père était instituteur, il avait toutes les œuvres de Victor Hugo, de Dumas, etc. Donc, c'est vous dire que ce sont ces personnes, ces commis de l'administration ou du privé, qui vont adopter la compréhension européenne de la souveraineté à leur manière, et qui vont donner un contenu que j'appelle afro-européen à la souveraineté. C'est sur cette base que vont naître, sur cette base théorique, que vont naître les nationalismes, le discours nationaliste, la lutte pour les indépendances. L'un des tout premiers à mettre véritablement, à exprimer véritablement ce qu'est la volonté d'indépendance, c'est un Algérien,
Oui, vous le citez. Oui.
C'est un Algérien c'est Messali Hadj.
Oui.
Et Messali Hadj, contrairement à ce que disent certains de mes confrères, Messali Hadj était lu en Afrique de l'Ouest.
Tiens.
Il était lu. Beaucoup de gens le lisaient.
En français.
En français.
Voilà. Bien sûr.
Oufoué Boigny a lu Messali Hadj. Ouezen Koulibaly a lu les travaux de Messali Hadj. Donc, c'est dire que ces idées ont circulé très rapidement. Mais assez rapidement aussi, on a constaté que la notion d'indépendance était en concurrence avec la notion d'émancipation. Et rapidement, glissement sémantique, on a considéré l'indépendance comme la sécession. Et tout cela, c'est un travail idéologique sur lequel l'Afrique va... sur lequel il y aura mal donne.
Mmh, bien sûr.
Donc, les indépendances de 1960, de la fin des années 50 et de l'année 1960, parce que c'est là que le gros de la troupe arrive à avoir ce label d'État indépendant, mmh. Cette notion ne va recouvrer qu'un contenu institutionnel. On ne parle pas de souveraineté, ou alors on parle de souveraineté internationale.
Ouais.
Il y a donc ici aussi un glissement sémantique. Alors que la souveraineté n'est pas que diplomatique. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas que l'extérieur. Elle concerne l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle est souveraine. Depuis la révolution de 1789, le citoyen.
Bien sûr.
C'est le citoyen. C'est le peuple citoyen, le peuple des citoyens qui est souverain et dont la souveraineté est exercée à travers des institutions, à travers le fonctionnement de l'État, à travers l'organisation économique et la vie économique et sociale, etc., et culturelle. Mais en même temps aussi, en regardant l'extérieur, les rapports qu'on a avec les autres États, il y a ici quelque chose que nos aînés ont raté. Je suis un peu dur parfois dans mon livre sur cet aspect des choses, mais ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. J'avais, dans un autre ouvrage, aborder ces questions et surtout à l'occasion d'une brève biographie du président Félix Oufoué-Boigny, j'avais abordé la question du passage de la colonie à l'État indépendant. Et dans un autre ouvrage aussi, plus cette fois portant systématiquement sur ce passage. Et je dois dire que quelque chose qu'on a bien vendu à nos États à cette époque, c'est la notion de développement.
Oui.
Entendu comme processus d'accumulation économique, d'enrichissement, donc de lutte contre la pauvreté ambiante. Point final. Alors que le développement, il est global et il est total.
Bien sûr.
Il doit être entendu comme mode de promotion de l'individu et de la collectivité. Et donc, on nous a bien vendu cela. On a bien vendu cela à nous.
C'était enrichissez-vous un siècle plus tard.
C'était exactement. C'est ça. Enrichissez-vous de Guizot.
Voilà, c'est ça.
Enrichissez-vous et puis le reste, regardez ailleurs. Il n'y a rien à voir. Donc, c'est quelque chose sur quoi il est important d'insister pour comprendre aussi la mise en place du système des partis uniques qui commence en Égypte avec Nasser.
Avec Nasser.
Et qui se répand après dans toute l'Afrique. Certains en disant il faut le parti unique pour mieux lutter contre le colonialisme et le néocolonialisme, ça c'est un crouma. Il faut le parti unique parce que, comme dit Félix Houphouët-Boigny, et comme le disait Félix Houphouët-Boigny dans un discours en 1961, nous n'avons pas besoin d'un trop plein de démocratie et de débats parlementaires. On a besoin de créer des richesses. Et donc, c'est le règne quasiment de la pensée unique qui se sera développée en Afrique. Mais à bien y regarder, à bien observer les mécanismes du système de parti unique, il s'agit tout simplement d'un système de prédation. Un système qui permet d'enlever au peuple la souveraineté qui le caractérise et qui lui appartient à 100%. Et tout est parti de là. De temps en temps, même un peu plus souvent, je donne des chiffres, la cascade des coups d'État en Afrique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Il y a tout simplement la perte de souveraineté par le peuple. C'est cela qui est le plus important. En Afrique, beaucoup plus que dans d'autres parties du monde, où il y a eu des choses innommables, l'Amérique latine, oui, le Moyen-Orient, etc.
Certainement.
Mais en Afrique,
en quantité,
ce qui nous a surtout posé problème, c'est que d'abord, dans la relation au reste du monde, il y a des a priori sur lesquels je ne reviendrai pas. M. Sarkozy en a donné suffisamment l'image. Il y a des a priori. Et l'Afrique a le tort ou l'avantage d'être potentiellement trop riche. Donc du coup, les vautours arrivent
en grand nombre.
En grand nombre. La troisième chose, c'est que nous n'avons pas pris conscience. Quand j'ai dit nous, c'est l'ensemble de nos États africains n'ont pas pris suffisamment conscience que le monde du XXe siècle, et on le voit encore mieux au XXIe siècle, le monde n'avance que d'abord par la pensée, que d'abord par la réflexion, que d'abord par la science, bref, par l'activité intellectuelle. On a coupé ça, nos chefs d'État ont coupé ce lien. Si bien que les premiers en Afrique à partir en exil, ce sont les intellectuels, les scientifiques, etc. Donc du coup, ça fait beaucoup. On a souvent dit, et je m'élève contre ce point de vue dans mon livre, oui, l'Afrique, c'est la terre des tribus, des ethnies. Ah, peut-être, au 19e siècle, c'est sûr. Jusque presque au milieu du 20e siècle, c'est sûr. C'est presque sûr. Mais après le 20e siècle, c'est fini. Malgré le colonisateur.
Qui s'en est servi pour diviser.
Qui s'en est servi.
Bien sûr.
Donc, après, d'abord, l'augmentation rapide de l'urbanisation, le nombre de citadins, la circulation des hommes, les déplacements, donc, de groupes qui s'interpénètrent beaucoup plus rapidement à l'époque coloniale qu'avant la période coloniale. Et donc, vous ne pouvez pas, je prends mon cas et je l'ai dit, je me souviens lors d'une rencontre avec le président Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il rencontrait les étudiants en 1967. J'ai dit, mais monsieur le président, vous dites que les étudiants ne militent pas assez dans le PDCIRDA. Le PDCIRDA est organisé sur la base des communautés ethniques. Vous connaissez mon père est bété. Ma mère est Yakuba. Moi, je vais militer où ? Chez les Yakuba ou chez les bété ? L'année d'après, le congrès d'après, 2 ans après, ils ont changé le système. Donc, c'est pour vous dire que la réalité sociologique est allée beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et elle n'a pas été malheureusement prise en compte dans l'énoncé ou en tout cas dans la conception de l'avenir de nos différents États. Chaque État a une histoire particulière, mais on retrouve les mêmes grands traits, les mêmes caractéristiques à travers ce continent de 53 États. L'autre chose qu'il est important de relever par rapport à cette notion de souveraineté, c'est que beaucoup ont pensé que les choses resteraient telles quelles pendant des générations. Oh, les Africains, ouais, bon, écoutez, donnez un peu de musique, un peu de... Vous ouvrez 2 ou 3 routes, vous construisez un bel immeuble, ils sont... Ah, moi aussi j'ai mon immeuble. Et puis, on continue. En 1989, patatras, ça bouillonne partout. Et au moment où on a la chute du mur de Berlin, c'est l'explosion. Les populations ne veulent plus rester dans ce système mis en place 30 ans auparavant. D'où la cascade de conférences nationales. On change les constitutions, on veut la démocratie, on veut le respect des droits de l'homme, on veut le respect du premier des droits de l'homme, le droit à la vie, etc., etc. On veut être maître chez nous, etc. Ah, on a beaucoup parlé, vous vous en souvenez certainement, du célèbre discours de la Baule.
Oui, de Mitterrand.
De Mitterrand. En disant, c'est grâce à ce discours dans lequel il disait celui qui ne change pas son régime pour en faire un régime démocratique, on lui coupe les vivres. Plus d'aide. Mon œil.
Exact.
La réalité est tout autre.
C'est Sankara qui meurt.
La réalité est tout autre. D'abord, le président Mitterrand n'a fait qu'accompagner un mouvement qui avait été déjà déclenché.
Bien sûr.
Et deuxièmement, cela correspondait avec une idée majeure, celle née dans les institutions financières internationales. Dans les institutions financières internationales, où, à la faveur des plans d'ajustement structurel, on demandait aux différents pouvoirs de faire adopter ces plans d'ajustement structurel par leur peuple. N'ayant pas été élu démocratiquement, vous ne pouvez pas aller demander aux populations, et on l'a vu avec le président Vauboigny, quand il a voulu réduire les salaires d'un tiers.
Et il était conseillé par un expert du FMI.
Et il était conseillé par un expert qui, à l'époque, était déjà gouverneur de la BCAO.
Bien sûr.
L'actuel président de Côte d'Ivoire. Alors, ah ouais, non. Bon, c'est vous dire que cette idée, en fait, le président François Mitterrand voulait la faire admettre, la faire accepter par les chefs d'État de l'espace francophone africain. C'est de cela qu'il s'est agi. Mais dans l'espace anglophone, ça a été plus direct encore parfois. Des missions de la Banque mondiale, du FMI ont mis carte sur table. Donc c'est vous dire que au fond de cette histoire, il y a d'abord, et comme toujours pour l'Afrique, il y a d'abord les préoccupations économiques et financières qui vise à l'exploitation maximale des richesses et des potentialités de l'Afrique. Si ces peuples peuvent avoir des jetons, il n'y a pas de problème. Mais fondamentalement, il s'agit de ça. L'autre aspect, c'est que tout cela s'inscrit dans un contexte de rivalité entre les grandes puissances, entre les multinationales et les PME, entre les réseaux politiques et financiers qui sont concurrents pour acquérir ou prendre des parts de marché. C'est cela, le fond du mécanisme. Et ce fond du mécanisme amène à faire en sorte que le peuple n'ait pas la souveraineté qui est la sienne.
Puisque les chefs d'État donc, qui acceptent cette mécanique ne peuvent pas s'appuyer sur un peuple qu'ils n'ont pas mobilisé. Voilà. Qui n'est pas structuré.
Et c'est pour cela que, à partir de 1995, est apparu ce que j'appelle dans mon livre le néo-présidentialisme. Le néo-présidentialisme. On arrête avec ces histoires d'élections transparentes. On truque les élections. On fait de la corruption, bref, on vide de sa substance l'éveil de cette démocratie à partir des années 90-94. Et systématiquement, on voit apparaître à nouveau une nouvelle génération de coups d'État en Afrique. On voit se maintenir des interventions étrangères, dont les interventions de la France. Mais il n'y a pas que la France qui intervient en Afrique. Nous, on parle de... Bon, les francophones parlent de la France, mais il y a des interventions américaines ou anglaises. Donc, c'est vous dire que le concept de souveraineté en Afrique a tout le temps été chahutée depuis la présence occidentale sur ce continent. Et pour cause, parce que il met en cause la question des rapports de dominant-dominé. Il remet en cause ces rapports. Il pose la question de la liberté collective des communautés. Exactement. Et je pense que c'est un combat qui se poursuit et qui doit se poursuivre. Qui doit se poursuivre. Je parle.
Non, non. Et qui avait été commencé par Laurent Gbagbo, parce que précisément.
Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je dois dire.
De créer la souveraineté intérieure.
Je dois dire que. Qu'on soit pour ou contre lui, on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est celui qui s'est battu le plus pour l'idéal démocratique en Côte d'Ivoire et l'instauration de la souveraineté réelle du peuple. C'est vraiment Laurent Gbagbo qui l'a fait. Nous avons été, lui et moi, en désaccord pendant quelques années. Notamment sur cette question de la démocratie, où j'étais de ceux qui considéraient qu'en raison de la longévité politique d'Oufoué-Boigny, il était nécessaire qu'il y eut une période de transition. La position de Laurent, elle était juste finalement. Il a eu raison. Il n'y a pas de transition entre ce qui n'est pas bon et ce qui est le moins mauvais. On coupe, on tranche. Et c'est ce qu'il a fait. Ça lui a valu ce que ça lui a valu, mais c'est lui qui a eu raison contre des gens comme moi. Et bon, nous sommes ensemble. Parce que ces idées-là, nous les avions depuis que nous étions étudiants. Mais lui a eu, je dirais, la force et l'intelligence de les mettre en pratique concrètement. Et je lui tire mon chapeau toujours d'ailleurs pour cela. C'est le meilleur d'entre nous.
C'est lui qui est le plus en souffrance.
Et cela, ben écoutez, vous savez,
mais, ah, oui.
Tout a un prix.
Oui, il paye, voilà, il paye.
Tout a un prix. On aurait aimé qu'il ne paye pas ce prix-là, qui est celui de l'injustice.
Absolument.
Mais bon.
Il est en vie.
Il est en vie, Dieu merci.
Dans d'autres cas, c'est ça a déjà été le prix. Ça a été le
c'est
prix.
Déjà quelque chose. Et... Mais la vie continue. On verra la suite.
Donc oui. votre livre est riche parce que justement, il insiste sur cette question de souveraineté intérieure. C'est-à-dire,
oui.
Il faut que les gens qui sont à la tête d'un État, ils ont une légitimité du peuple.
Absolument.
Qui est unie, qui oui. Se considère non pas comme ceci ou cela, comme, hélas, on utilise trop souvent l'argument comme musulman contre chrétien, comme telle tribu contre telle autre et tout. C'est des facteurs de division qui sont entretenus, y compris militairement de l'extérieur. On l'a vu dans la crise ivoirienne, au-delà de toute démonstration. Et en fait, il y a besoin que ces États dont les frontières ont été tracées par d'autres gens que les personnes qui les habitent aujourd'hui, prennent conscience de ce qu'ils sont une nation.
Absolument.
Et il faut des gouvernants qui décident que ce soit une nation. Et à la tête d'une nation, il y a un État. Mais un État n'est jamais que la fine fleur ou l'outil pour organiser cette nation, pour qu'elle continue à s'intégrer dans le monde, mais pas plus. On a eu des États qui n'étaient pas des États de nation. C'était des États. C'était une espèce de gouverneur colonial, mais qu'on avait changé de couleur.
Il n'a jamais été dans la pensée du colonisateur d'avoir en face de lui des nations.
Voilà, exactement.
Il n'a jamais été non plus dans sa pensée, même lorsqu'il faisait des réformes pour l'élargissement du corps électoral, etc., d'avoir en face de lui une nation de citoyens, une communauté de citoyens. On élargit. Bon, en 1946, il y a deux collèges, le collège des indigènes et le collège des citoyens. Ça marche plus ou moins. Finalement, avec les changements de majorité et les problèmes de l'Afrique du Nord qui commencent à un peu fatiguer l'exécutif français, bon, avant que ces Noirs ne bougent, donnons-leur un os à sucer. Ouais, c'est la loi cadre.
C'est la loi cadre. Et Gaston Defferre.
Et automatiquement,
à Marseille.
On élargit le corps électoral. On dit, bon, il n'y a plus de double collège, tout le monde vote. Tout le monde vote. On fait comment? Le vote, là, c'est quoi? On ne sait pas. Donc, finalement, c'est dans les centres urbains que ceux qui ont vu déjà les premiers aller voter, ah oui, on fait ci, on fait ça. Et les partis politiques, charge, oui, faut voter pour moi, votez pour moi, vous prenez le bulletin, il y a mon nom dessus. Mettez. Quand, comme beaucoup de gens ne savent pas lire, tu vois l'éléphant là, l'éléphant, ça c'est le PDC, tu mets là-dedans, ok. Mais on vote parce que, bon, je connais Bernard, on est du même village, ou bien on est de la même subdivision. On m'a dit, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il viendra aux obsèques de mon oncle ou du frère de l'oncle de la tante de ma sœur. Bon, ok. Il n'y a pas ces populations de la fin de l'ère coloniale n'ont pas eu le temps de savoir ce qu'est un citoyen. Ça représente quoi? Ça change quoi? C'était pas la tâche d'été des partis politiques, ce qui les intéressait. C'était être député ou conseiller général, c'est tout. Et dans le cadre, avec la loi cadre, où des Africains peuvent commencer à postuler pour des places occupées jusque-là par le commandant de cercle de tel coin ou l'administrateur de tel autre coin. Bon, c'était beaucoup plus cet aspect. Donc, dans l'esprit du colonisateur, il ne s'agissait pas de créer ou d'aider à créer une nation.
Pas du tout.
On aurait pensé qu'avec les indépendances, il y aurait eu des politiques qui permettent justement de créer, de consolider ces communautés politiques nées de la colonisation. Mais ça n'a pas été le cas. Et de toute façon, il n'y a pas un moment, un temps T de naissance d'une nation.
Non.
La nation, c'est comme démontrer la marche pour savoir ce qu'est le mouvement, il faut marcher.
Bien sûr.
Donc, et deuxièmement, c'est sur la longue durée.
Bien sûr.
La notion même d'État-nation est en débat actuellement.
Oui.
Elle est en débat. À la fois par rapport à son contenu intrinsèque que par rapport à la constitution en cours à travers le monde de grands ensembles. On oublie souvent que ces grands ensembles qui se créent sont d'abord et fondamentalement des ensembles économiques.
Bien sûr. Bien sûr.
Regardez pour l'Europe.
Ouais. Évidemment.
Comment c'est si difficile de passer à l'Europe des peuples. Par contre, le marché commun, même si on ne parle plus de marché commun, c'est cela d'abord qui préoccupe le paysan du Larzac ou le pêcheur de Marseille. Donc, c'est dire que il y a encore une histoire devant.
Bien sûr.
Il y a encore une histoire devant. C'est pour cela que je suis contre la thèse de Fukuyama qui dit qu'on est à la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas achevée.
Mais non. Tous les historiens comme vous, sérieux, en témoignent.
L'histoire n'est pas achevée. Peut-être que dans 50 ans, on parlera de la nation ivoirienne ou de la nation africaine. C'est pour cela que j'ai introduit dans mon livre, ce en quoi je crois le plus, la notion de co-souveraineté. Mais on reviendra dessus un peu plus tard.
Si vous voulez. Mais vous parlez aussi, vous citez le panafricanisme vous n'êtes pas un héros du panafricanisme, vous en parlez beaucoup à propos de Nkrumah en particulier, mais ça ne fait pas partie, d'après ce que j'ai compris, des thèmes pour vous mobilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut passer par des ensembles plus petits pour commencer. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'heure de vouloir trop grand? L'Afrique arriverait à être autonome et consciente d'elle-même alors qu'elle n'arrive pas état par état.
Non, j'expose...
Oui,
dans cette partie-là, j'expose les points de vue.
Oui. Oui.
J'expose les points de vue sans prendre parti. Mais fondamentalement, par le biais de la notion de co-souveraineté, je suis un panafricaniste.
D'accord.
Mais mon panafricanisme impose que d'abord, les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Vous ne pouvez pas mettre dans la même institution tel pays. Vous ne pouvez pas mettre tel pays où on s'en fiche des droits de l'homme avec tel autre pays où non seulement on respecte les droits de l'homme, ou en tout cas on mène une politique qui vise à cela, et la démocratie. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Si vous les mettez ensemble, vous restez au niveau, je dirais, de relations diplomatiques de bonne volonté.
C'est tout, pas plus.
Vous ne pouvez pas amener ces États à avoir une politique commune de sécurité, une politique commune culturelle, etc., etc. Donc, première condition pour ce qui me concerne, je peux me tromper, hein, et je sais que des gens vont m'attaquer sur ce point, mais bon, c'est mon point de vue. La deuxième chose, c'est que parce qu'ils ont fait les mêmes choix idéologiques ou en tout cas les mêmes choix de politique globale, s'impose à eux une notion diplomatique importante, la réciprocité.
Oui.
La réciprocité. Si nous sommes d'accord chez nous pour ouvrir, je prends un exemple, hein, pour ouvrir nos frontières à tout le monde, il faut que les États du même ensemble ouvrent eux aussi leurs frontières à tout le monde.
Bien sûr.
On le voit pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire...
Bien sûr.
Le quart de la population est constitué de populations venues des États voisins. Mais le pays qui a la proportion la plus proche de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. 2% d'étrangers.
C'est beaucoup.
Et pour qu'un Ivoirien s'installe au Sénégal, ah oui, bon... Il peut louer une maison, mais s'installer, faire des affaires, il y a des conditions. Il faut investir tant. Or, en Côte d'Ivoire, il arrive, tu as 1000 francs, tu as 10 000 francs, tu as 10 milliards, tu investis. Donc, la réciprocité. La troisième condition,
c'est que nous ayons un minimum de conception commune de nos rapports avec ceux qui sont dehors, notamment avec l'Occident, notamment avec les anciennes puissances coloniales. Parce que ce sont elles qui nous posent des problèmes parfois existentiels. Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, non, mais la nature de nos rapports anciens perturbe la sérénité qui sied aux relations d'État à État. Par exemple, je prends le cas de la France parce que, bon, c'est celui qui me vient immédiatement à l'esprit.
Bien sûr.
Pendant longtemps, il y a eu un ministère de la coopération.
Exact. Qui était à part des affaires étrangères.
Qui était à part.
Complètement.
Mais quels étaient les États concernés par ce ministère de la coopération? C'était les anciennes colonies de la UEF, de l'AEF et Madagascar.
Oui.
Pas l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord relevait des affaires étrangères.
Exact.
Pourquoi ? Il y a un problème. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il est nécessaire d'avoir les mêmes, au moins la même vision, sinon les mêmes perspectives. Les mêmes perspectives. On aimerait bien que ces perspectives soient les plus favorables possibles dans une démarche gagnant-gagnant, comme on le dit aujourd'hui. Mais bon, il faut avoir au moins la même démarche. Au moins la même démarche. Or, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Récemment, à propos justement du décès de Chirac, j'ai vu sur les réseaux sociaux une critique. Il y a des chefs d'État africains qui sont venus aux obsèques, qui ont apporté de l'argent pour Madame Chirac. Ça, c'est culturel. Chez nous, vous allez aux obsèques d'un ami, vous apportez quelque chose en signe de solidarité avec la famille. Ça n'a rien de... Ce n'est pas du gaspillage. Ça fait partie des mécanismes sociaux, des mécanismes de rapports sociaux fondés sur la solidarité. Je le dis parce que pour vos jeunes auditeurs qui vont voir ça, ah oui, c'est les Africains s'en vont dépenser le peu d'argent qu'ils ont. Non, 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 non. C'est culturel. C'est une tradition africaine. Moi, je suis en France depuis quelque temps. Bon, depuis 9 ans, je suis en exil. Mais il n'y a pas de décès chez moi auquel je ne participe pas financièrement. Même si c'est pour envoyer 15 euros, je le fais. D'accord. Parce que c'est ça qui fait fonctionner nos rapports sociaux. C'est ça qui fonde notre solidarité. Notre solidarité familiale, notre solidarité nationale. Voilà. Donc, je tenais à faire aussi...
Donc, c'est bien parce qu'on a pu confondre les djembés pour les campagnes électorales et ça, c'est tout autre chose.
C'est tout autre chose.
Et c'est pas la même échelle.
Et puis, bon, il est normal que le président Chirac, feu le président Chirac, ait des amis en Afrique. Ce serait... Mais il a le droit à avoir des amis.
Ah, bien sûr.
Comme il a le droit à avoir aussi des ennemis ou des adversaires.
Yes.
Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Hein.
Vous êtes un observateur lucide et très, très informé.
De toute façon, on n'avait pas le même âge. Et puis, je n'étais pas aux affaires quand il était...
Voilà, vos rapports difficiles ont été avec le sarkozysme et avec ses équipes.
Oui, mais lui, vraiment, c'est dommage.
puisque vous avez parlé d'exil, je voudrais finir un peu sur cette note-là. Bon, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout le livre, qui est extrêmement riche, bon, je recommande. Oui. Il est très dense sur les concepts de souveraineté dans notre histoire culturelle européenne, très dense aussi sur la souveraineté vécue par les Africains avant la colonisation. Oui. Et puis, on est à un moment où il faut que tout ça s'imbrique pour trouver de nouvelles règles. Mais la souveraineté, alors je le dis parce que vous savez que les souverainistes en France ont mauvaise presse.
Hein. Tout à fait.
Ça reste un concept, ça reste un concept très opératoire. Dans la mesure où on fait comme vous faites, la souveraineté, elle est reconnue par le peuple qui a ses dirigeants à la tête
tout
et qui respecte ses dirigeants.
Tout
et ça veut dire que les dirigeants le respectent. C'est ça la souveraineté intérieure. Et une fois qu'on a ça, on peut imposer la souveraineté à l'extérieur. Moi, je représente mon pays. Mon pays me suit. Il est d'accord avec moi. Il est derrière moi. Autrement,
vous a accordé une légitimité.
Autrement, on n'est jamais qu'un gouverneur de passage, ou un colonel qui fait un coup d'État. Et rien de plus. Ça, c'est une notion très importante.
Absolument.
Et qui est en train, qui est sur la, c'est une notion qui est contestée en France aujourd'hui.
C'est pour cela, d'ailleurs, c'est aussi pour ceux qui, en Afrique, penseraient comme les jeunes Français. C'est pour cela que j'ai ce chapitre sur l'élaboration en Europe parmi les philosophes, l'élaboration de la notion de souveraineté, pour que les gens comprennent bien. Que ce n'est pas pour faire comme des partis d'extrême droite ou non. La notion de souveraineté, elle est au cœur de la formation de l'État. Donc il faut avoir cela en tête, même si on doit la dépasser, même si on doit l'améliorer, il faut bien avoir conscience qu'elle est au cœur de la formation de l'État.
C'est vrai que tout à fait important.
C'est très important.
Aujourd'hui.
Oui, je voudrais juste préciser qu'il y aura une signature du livre de M. Kipré le samedi 30 novembre ou le samedi 7 décembre. On ne connaît pas encore la date. À Marseille.
Donc il y aura une conférence publique au cours de laquelle vous pourrez développer et répondre aux questions du public sur votre livre. Et puis tout ce que vous avez à dire, outre ce qu'on a privé de dire parce qu'on n'a eu qu'une heure et demie ce soir. Mais je voulais que vous nous disiez un mot sur votre exil. Vous dites que vous avez été exilé, votre exil est terminé sans l'aide puisque vous n'êtes pas dans votre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Rappelons quand même cet événement qui est pas
très brièvement, parce que ça remue tellement de souvenirs
douloureux, je pense, pardon.
Que, bon, je dirais que le 28 mars.
Oui.
2011,
oui.
J'avais eu une séance de travail avec le président Gbagbo, avec d'autres collègues ambassadeurs. Et comme il nous accordait un mois de congé, je lui ai dit, je demande l'autorisation d'aller faire acte de présence au mariage d'un ami commun, à lui et à moi. Et il a même payé mon billet et tout. J'ai donc pris l'avion à Abidjan, le dernier avion qui partait d'Abidjan. Parce que dès que l'avion a pris son envol, l'armée française a pris le contrôle de l'aéroport d'Abidjan.
Elle est installée juste à côté.
J'ai fait escale à Cotonou. Je devais changer d'avion et l'avion que je devais prendre pour Bamako est tombé en panne. Et j'ai appelé quelques amis qui m'ont dit, mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es en ce moment? J'ai dit, mais je suis à Cotonou. Ah, ben je vais à Bamako pour un mariage. Ah non, surtout ne va pas à Bamako, reste sur place. Parce que Bamako, c'est la base arrière des rebelles qui sont aidés par la France. Ah, donc je reste à Cotonou. Et déjà sur France 24, on disait qu'on m'avait arrêté à l'aéroport d'Abidjan. Et donc, je suis resté à Cotonou. On était le 30 mars 2011. Et depuis le 30 mars 2011, j'étais à Cotonou jusqu'en janvier dernier. Deux fois, on a tenté de m'enlever. Mes enfants, qui sont français et qui sont installés ici depuis des années, On dit, ah non, papa, tu ne peux pas continuer de prendre autant de risques. Viens passer quelque temps avec nous. Quand tu seras fatigué de la France, tu iras aux États-Unis, parce que j'ai une autre de mes filles aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé. Et je suis bien content d'être là, parce que au moins depuis 9 ans que je ne les avais pas vus, je passe mon temps à jouer avec mes petits-enfants et c'est mon plus grand plaisir. Ça me donne la pêche.
C'est très bien. Voilà. Et vous l'avez encore, voilà. Vous en avez témoigné. Voilà. Mais ce que ça veut dire, je traduis ça en cru pour les auditeurs français, ça veut dire qu'à partir du moment où Gbagbo a été renversé,
oui,
tous les gens comme vous qui ont été ministres, qui ont été donc ambassadeurs ou à tout autre poste dans la fonction publique ivoirienne, ont dû fuir, ont été pour certains repris dans des pays d'exil où on est venu les chercher avec les services secrets, etc. Et sont en danger sur le territoire de leur pays.
De leur pays.
Merci, monsieur Sarkozy. J'insiste là-dessus. Mais c'est ça qui est dramatique.
Oui, hein.
Vous êtes presque à la 9e année d'exil forcé.
À l'insu de l'opinion publique française.
Tout
et c'est ça
fait.
Qui est le plus et dramatique.
Et c'est ça qui est le plus dramatique. Et c'est ça que, modestement, on essaye de faire ici, faire comprendre à ce que donc Théophile Kouabo appelle la colonialité. C'est-à-dire que les Français acceptent trop facilement qu'on leur mente sur l'Afrique ou qu'on leur vende des clichés. Oui, ils dansent, ils s'amusent, tout est drôle en Afrique, etc. C'est pas vrai. Donc, merci énormément de nous avoir apporté ce témoignage. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler. Et on va écouter un témoignage d'un autre Ivoirien que vous connaissez peut-être, qui est Armand Gauze. Qui va nous donner sa version à lui de, justement, des mélanges des cultures et du mélange des souverainetés, celle de l'intérieur, celle de la façon africaine et la façon européenne. Sidi, tu m'entends? Tu peux nous passer Gauze? Voilà, parce que dans son style qui n'est pas le vôtre, il n'a pas la rondeur du diplomate qui est la vôtre, mais vous le connaissez certainement, Armand Gauze.
Si, je connais Armand.
Et donc, il a une puissance d'expression et il partage tout à fait ce que vous avez dit dans son style, dans son style d'Armand Gauze.
Tu as précisé qu'il était ivoirien.
Oui, il est ivoirien,
Et on est de la même région.
On l'avait reçu ici à ce micro, à un moment où il était en résidence à Marseille. On avait fait des émissions avec lui. Donc on va écouter Armand Gauze. On y va.
On dit qu'on est des Superman. Toi, le français moyen, on a lu les mêmes bouquins, on parle la même langue. On a regardé les mêmes films, on a écouté la même mauvaise musique de merde des années 80. On a exactement la même culture. Je suis décomplexé face à toi. Toi, tu n'as pas la mystique de mon grand-père. Tu n'as pas la mystique de mon village. Moi, j'ai les deux. C'est nous, les Superman. Les indépendances sont la plus grande arnaque intellectuelle et matérielle de tous les temps. Aujourd'hui, le Nigeria s'appelle toujours Niger Area. Le plus grand fleuve d'Afrique de l'Ouest s'appelle toujours le Niger. Il y a un pays qui s'appelle Niger. Les Camerounais, c'est des crevettes. Camaro, wesh. La côte des dents d'éléphant. Quel sens ça aujourd'hui? La négritude, c'est un peu ce monstre intellectuel, cette espèce de lourdeur qu'il faut définitivement couler pour passer à une Afrique de l'après-indépendance. La négritude. L'invention est, on va dire, francophone, sous l'influence d'une bande de copains parisiens, Césaire, Damas, Senghor. Le mot négritude apparaît pour définir une espèce de mouvement artistique et politique noir qui tend à donner une espèce de nouvelle identité à l'homme noir transcontinental, Afrique, Europe, Caraïbes et tout ça. Moi, j'oppose à ce mot-là ce que j'appelle la noirie. Parce que la négritude, en fait, c'était l'usine de fabrication à nègre. Et je pense personnellement que toute cette bande d'intellectuels formés, biberonnés à la culture et à la civilisation européenne, ils se sont bourrés de complexes qu'ils ont traduits dans leur œuvre et qu'ils nous ont transmis comme héritage artistique. Hélas, ils font partie de tous ces hommes qui ont accentué le regard exotique sur les nombreuses et les diverses cultures africaines. Quand j'étais à l'école, au collège et tout ça, j'étudiais des poèmes qui parlaient de la beauté du soleil. Moi, je ne comprenais pas ces poèmes-là. Parce que moi, le soleil, pour moi, c'était un grand malheur. Parce que ça te rend malade, t'as chaud tout le temps, les plantes ne poussent pas. Ce qui plaisait à mon grand-père, c'était la pluie, les promesses de fertilité des terres. Oui, ça, c'était le beau temps. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ces poètes de Saint-Germain-des-Prés m'expliquaient que le soleil, c'était magnifique. Et c'est bien plus tard, en prenant conscience qu'ils avaient fabriqué une espèce d'usine à noir, que je me suis dit, ah ben quand même, c'est quand même une belle arnaque que je me suis fait avoir. Moi, je suis un Africain, ivoirien, une espèce de Superman, grandi à la mamelle des conséquences du français, des conséquences de la colonisation, mais aussi imprégné d'une mystique africaine totalement ancrée dans, par exemple, les contes de ma grand-mère, ancrée dans les traditions de tous les jours. Non seulement il faut tuer tous ces Senghor et toute la bande à Senghor, mais en plus, il faut qu'on assume, en tant qu'Africain d'aujourd'hui, qu'on est des Superman. Se débarrasser de la négritude, c'est fabriquer de nouveaux canons esthétiques, de nouveaux canons politiques à opposer à ce grand capitalisme international. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le combat, c'est ça, c'est lutter contre le grand capital. Ce n'est pas du tout une caricature. C'est de lutter contre l'exploitation du plus grand nombre par un petit groupe. Et ça, ça n'a pas de couleur. C'est une culture à fabriquer par des livres, par des films, par de la poésie, par de la sculpture, par de l'ébénisterie, par de l'architecture. Repenser qui nous sommes en tant qu'Africains, héritiers de cette histoire mélangée de la colonisation, mais héritiers aussi de nos histoires personnelles, de nos histoires traditionnelles, etc. Le destin, c'est justement ce mélange, qui n'est pas un métissage, qui est un mélange. Sortir de l'usine à négro pour créer l'être nouveau, voilà. Un être esthétique, un être politique, social, etc.
Son style, entre l'essentiel de votre pensée, sous son mode amusant et humoristique, tout ce qu'il dit, on le retrouve là dans votre livre. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous l'avez rencontré récemment. Mais d'ailleurs, il est reparti, il a longtemps été en France, il était en résidence, et je crois qu'il est reparti à Grand Bassam.
Ah, d'accord.
Il s'est installé.
Il veut être
au pays, je crois bien. En tout cas, grand merci. On aura l'occasion donc de vous présenter au public marseillais pour la signature et les commentaires sur votre livre, qui mérite d'être lu parce que même en une heure et demie, on n'a pas eu le temps d'en faire le tour. Ouais. Mais c'était bien de montrer ce confluent des cultures et puis cette émergence d'une compréhension de quelque chose de neuf qui peut se passer en Afrique dès l'instant où les grands frères qui sont ici la laissent tranquille. C'est ça, je pensais au franc CFA, je pensais à différents dossiers là-dessus. Que cette souveraineté extérieure, elle soit aussi gagnée. Il y a encore pas mal de chemin à faire.
Absolument.
Qu'il n'y ait plus une armée française juste autour de l'aéroport d'Abidjan au moment où vous montez dans l'avion, qu'il n'y ait plus ça. Et là, on aura fait un gros progrès. Tout ça est devant nous.
Tout à
nous sommes ensemble.
Ça fait partie des avenirs de l'Afrique.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre Kipré.
Okay.
Bonne soirée à tous.
Cerise et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail, qu'en cueillant